Radio Okapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma. Clôture hier du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie. C'était une occasion pour l'Angola d'organiser un mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cependant, le président Tshisekedi estime que le Rwanda n'est pas engagé sur le chemin de la paix tel que prévu par la feuille de route de Luanda, a dit la porte-parole du chef de l'État. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri déplore l'exclusion de cette province dans le calendrier aménagé de la CENI. Pour l'UNADI, n'est pas organisé les élections des gouverneurs en Ituri et au Nord Kivu sous prétexte qu'elles sont en état de siège, ne s'explique pas. Et puis, santé. Le choléra fait rage à Likasi dans le Haut-Katanga. En une semaine, on compte plus de 150 cas au centre de traitement de choléra. À la base de cette situation, la consommation de l'eau non assainie, explique l'autorité urbaine. Madame, Messieurs, bonjour. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement s'est clôturé hier dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Placé sous le thème « Éduquer un Africain adapté au 21e siècle », ce sommet a permis aux participants de réfléchir sur une Afrique prospère, basée sur une croissance inclusive et un développement durable. Dans son discours de clôture, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a fait remarquer qu'il est important que l'Afrique investisse considérablement dans l'éducation, dans le but de développer le capital humain et social à travers une révolution de l'éducation et des compétences mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Même avec une augmentation substantielle du nombre d'enfants africains ayant accès à l'éducation de base, ajoute-t-il, un grand nombre d'entre eux ne sont toujours pas scolarisés parce que, conclut-il, il existe de nombreux obstacles à l'éducation pour les ménages à faible revenu. Par ailleurs, ce sommet a été une occasion pour l'Angola d'organiser un mini-sommet consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC afin de tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Le président angolais va poursuivre ses échanges avec ses homologues congolais et rwandais à Luanda. Pour Tina Salama, porte-parole du président Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État congolais a au cours de cette réunion relevé le fait que le Rwanda n'est pas engagé sur le chemin de la paix tel que prévu par la feuille de route de Luanda. Il a aussi noter qu'il peut dialoguer avec le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. Tina Salama l'a dit à Blaise Makasi.
Alors, dans la salle, la tension a été palpable entre les deux chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi est resté ferme, en tout cas. Il a dit que le Rwanda n'est pas engagé sur le chemin de la paix tel que prévu par la feuille de route de Luanda et est uniquement intéressé par le pillage de nos ressources, et cela au sang des Congolais. Et cela n'émeut plus personne. Il a tenu à le préciser, une guerre importée en RDC par le Rwanda qui cause de la souffrance au peuple congolais pendant près de trois décennies quand même, et tout ceci à cause d'un individu et de son régime. Alors le président Félix Tshisekedi a dit qu'il ne dialoguerait pas avec le M23, qui n'est qu'un chiffon vide, mais plutôt avec le Rwanda, et il va dialoguer, mais pas à n'importe quel prix. Le Rwanda a plutôt ressorti sa rhétorique habituelle de la présence des FDLR. Et il s'en est presque pris, on va le dire, aux troupes de la SADC présentes en RDC. Le médiateur Lorenzo a dû lui rappeler qu'il va le rencontrer en aparté pour lui expliquer le rôle ou la présence de la SADC en RDC.
Entre-temps, au Nord Kivu, la plateforme des associations et propriétaires des motos juge inopportune la marche de ce lundi à Goma. Cette marche est projetée par les mouvements citoyens, groupes de pression et structures des jeunes du Nord Kivu au motif d'inciter le gouvernement congolais d'en finir avec la guerre qui perdure, mais aussi encourager les forces armées et demander aux populations de résister contre l'ennemi. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma et ses environs, le président de cette corporation attire l'attention de tous les motards de ne pas et faire manipuler par les politiciens, mais plutôt, je cite, de faire confiance aux FARDC, aux Azalendo, à la MONUSCO et à la SADC qui combattent sur terrain, fait de citation. Ngoiki Sirani Kambale lance cet appel au micro de Bernardine Diambou.
Nous sommes derrière les FARDC, nous sommes derrière la MONUSCO, nous sommes derrière la SADC, nous sommes derrière les Azalendo. parce que ce sont des patriotes de la République démocratique du Congo. À mes amis motards, concernant la manifestation de ce lundi, ne soyez pas intimidés ou trompés par les politiciens. Notre élite, c'est de voir comment obtenir la paix, surtout à l'Est. Mais maintenant, ne soyez pas manipulés encore une fois avec les politiciens. Et j'insiste toujours, on est là pour la paix et non la guerre. Nous avons une couche qui est trop sensible. Ça c'est un. Nous sommes au moins 27 000 motards dans la ville de Goma. Donc, si nous serons manipulés par les politiciens, il y aura beaucoup de dégâts. Mais moi, je parle en tant que garant des motards dans la ville de Goma. Et j'insiste, ne voulez pas voir l'un de nos amis motards de participer de cette manifestation de ce lundi.
À noter que le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kapend-Kamande, a également interdit cette marche dans un communiqué officiel rendu public vendredi à Goma, appelant ainsi toute la population à vaquer librement à ses occupations. L'actualité, c'est aussi cette déclaration de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI. Elle déplore l'exclusion de la province de l'Ituri par la CENI dans son calendrier aménagé pour la suite du processus électoral en RDC. Dans un point de presse tenu ce week-end à Bunia, cette structure estime que n'est pas organisée les élections des gouverneurs en Ituri et au Nord Kivu sous prétexte qu'elles sont en état de siège, ne s'explique pas cela car selon elle, les élections générales se sont bien déroulées dans ces deux provinces. Cette structure demande d'une part à la CENI d'organiser les élections en Ituri et d'autre part au président de la République de lever cette mesure exceptionnelle de l'état de siège qui ne s'explique plus. Restons en Ituri pour parler de ce projet agricole de réinsertion des ex-combattants de la milice Force patriotique et intégrationniste du Congo et leurs dépendants, projet initié par la MONUSCO à Nyakunde, localité située à 45 km au sud de Bunia, territoire d'Irumu. Ce projet de culture puis des transformations de maïs a produit pour la première récolte, environ 60 tonnes de maïs sur 40 hectares cultivés notamment par des ex-miliciens. Jean-Claude Lowe qui a assisté à la cérémonie, voici son reportage.
700 personnes, parmi lesquelles des miliciens qui se sont désolidarisés de leur groupe armé, ainsi que leurs dépendants, ont produit en l'espace de 6 mois près de 60 tonnes de maïs frais. Pour le gouverneur de l'Ituri, c'est un bel exemple que Tinekili Majadis, reconnu comme le bastion de la milice FPIC, soit transformé en un chantier agricole du lieutenant général Johnny Luboya.
Le maïs que vous voyez là-bas, c'est un maïs qui vient de Tinekilima. Là où jadis personne ne pouvait accéder, là où on disait qu'il y avait la violence, voilà aujourd'hui c'est du maïs qui vient de là. Et ça vraiment, je tiens vraiment à en remercier et à les encourager.
Une initiative de la MONUSCO bien accueillie par Baraka Malali qui s'est désolidarisé de son groupe armé FPIC en devenant l'un des superviseurs de ce projet en qualité d'agronome.
Nous sommes satisfaits à voir les jeunes qui étaient en train de chômer. Pour nous, il y avait beaucoup de besoins. Les problèmes de scolarisation, des affaires, on a remercié tous les partenaires.
D'après le coordinateur de l'ONGRAD, réseau des associations pour le développement durable, qui a exécuté ce projet, les violences qui étaient commises, surtout sur l'axe Bunia-Komanda, ont sensiblement diminué depuis l'intégration de ce milicien dans ce projet. De retour de Nyakunde, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Entre-temps, à Beni, 10 enfants ont été extirpés de l'armée sur les 73 jeunes de la dernière vague venus de Rwindi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu et qui sont cantonnés au camp militaire de Mambango. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Beni. C'était au cours d'une séance d'identification de ces jeunes qui ont manifesté ce week-end la volonté d'intégrer l'armée après s'être échappés du recrutement forcé de la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Certains enfants affirment avoir assisté à plusieurs scènes de tuerie de leur père ainsi qu'à d'autres exactions. Blaise Makassinandes.
Ces 10 enfants, tous des garçons et dont l'âge variait entre 15 et 17 ans, figuraient sur la liste des jeunes qui sont en attente pour la formation militaire avant leur intégration au sein de l'armée. Cet enfant âgé de 16 ans affirme s'être échappé des mains de M23 au niveau de Bushanga dans les territoires de Masisi.
Nous étions en train d'élever des chèvres. Les M23 sont venus et ont récupéré mes amis. J'ai réussi une balle perdue à la main lorsque j'ai tenté de prendre fuite. Mais ils ont exécuté mes amis avant de les enterrer.
Cet autre rescapé, venu de Mweso, s'est échappé alors que le M23 voulait les recruter des forces au niveau de leur établissement scolaire. Nous étions à l'école et les M23 sont venus. Ils ont commencé déjà à récupérer les élèves par force. C'est lorsque moi et d'autres amis nous voulons nous échapper que nous avons rencontré un groupe de rebelles. Ces derniers ont tiré sur l'un d'entre nous qui voulait s'échapper et il est mort sur le champ. Ils sont partis avec nous et nous avons passé 2 jours avant d'avoir l'occasion de nous échapper. C'est ainsi que j'ai décidé, même si je suis encore élève, je dois intégrer notre armée. D'autres jeunes venus du territoire de Rutshuru parlent des travaux forcés auxquels ils étaient soumis après leur recrutement. Ils appellent le gouvernement à s'impliquer pour rétablir la sécurité dans leur milieu d'origine. La MONUSCO, à travers sa section de la protection de l'enfant, a remis ses 10 enfants auprès d'une organisation locale partenaire de l'UNICEF pour les suivi avant leur intégration dans la communauté.
Autre nouvelle, au Maniema, nous apprenons que l'absence des juges est criante dans les tribunaux. L'ONG Akizabina Damu au Maniema hausse le ton et appelle les autorités compétentes, surtout le Conseil supérieur de la magistrature, à l'affectation des nombres requis des juges au niveau de chaque juridiction du Maniema pour qu'elles soient opérationnelles et statuées sur les affaires. Le secrétaire exécutif de cette ONG fait savoir que toutes les affaires pénales sont renvoyées sine die, ce qui plonge cette province dans une situation de déni des justices. Pourtant, l'accès à la justice fait partie du droit de l'homme. Raphaël Oupelele explique la situation au micro de Florence Kiza.
La justice dans notre province est très mal logée ces derniers temps. Nous avons 7 tribunaux de paix. Tous les 7 fonctionnent guère. Nous avons 4 tribunaux de grande instance. Tous les 4 vont bientôt être dans une situation de dysfonctionnement parce qu'il n'y a que les présidents des tribunaux. Et nous avons une seule cour. Ça, c'est dans le domaine de la justice civile. Nous avons une cour militaire. Nous avons aussi un tribunal militaire. Mais dans le côté civil, tribunaux de paix, tribunaux de grande instance ne fonctionnent pas. Ipso facto, la cour aussi sera affectée parce que la cour, c'est une juridiction d'appel. Cette situation va impacter négativement la justice parce que c'est elle qui a le monopole de dire les droits, c'est elle qui a le monopole de sanctionner. Ça risque de causer un problème d'érosion de confiance entre la justice et les justiciables parce que les gens ne sauront plus avoir gain de cause devant les juridictions. Alors ils vont recourir à la justice privée ou ils vont aller dans d'autres offices tels qu'ils sont habitués aux auditorats. Nous sommes dans une situation de déni de justice, s'il faut dire ainsi, parce que nous ne savons pas comment accéder à la justice.
Santé, je vous l'ai dit dans les titres. Le choléra s'intensifie à Likasi dans le Haut-Katanga. En l'espace d'une semaine, le centre de traitement de choléra a enregistré plus de 150 cas. La prise en charge est assurée grâce à la division provinciale de la santé qui disponibilise les intrants. L'ONG internationale Médecins sans frontières France en a fait aussi autant le vendredi. Pour sa part, l'autorité locale demande à la population le strict respect des mesures d'hygiène. Jean Gandou.
La ville de Likasi, hormis le centre d'instruction militaire Moura, a notifié jusqu'à ce vendredi 250 cas de choléra, dont le premier malade était signalé au mois de décembre de l'année dernière. Les victimes sont soignées au centre de traitement de choléra, situé à l'hôpital général de référence d'Ako dans la commune de Kikula. Et depuis lors, 14 personnes en sont mortes, dont 7 dans la communauté. Du 12 au 15 février dernier, ce centre a enregistré 158 malades. 9 parmi eux ont perdu la vie, rapportent les sources proches de ce centre. À noter que, même si toutes les communes de Likasi sont touchées. La plupart des victimes proviennent de la commune de Kikula, plus précisément des quartiers Okito et Kampemba. Les habitants de ce quartier consomment l'eau d'un cours d'eau et des puits non assainis, ce qui serait à la base de la propagation de cette épidémie, renseigne l'autorité urbaine. Cette dernière recommande que tous les cas suspects soient référés au centre de traitement de choléra où la prise en charge est gratuite. Entre-temps, la radio communautaire de Likasi a mis à la disposition des relais communautaires des espaces pour la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène à observer pour éviter la maladie qui continue sa progression. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Direction le territoire de Kenge dans le Kwango. Les bénéficiaires directs des infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires saluent l'acquisition des nouvelles salles de classe équipées. Selon le directeur de l'école primaire Ngondi, par exemple, ces nouvelles classes viennent de mettre fin aux contraintes auxquelles font face les élèves et les enseignants. Paul Matendo Mayamba, reportage.
En tout cas, tous les élèves, les élèves qui ont bêta, bana, bazalaki ko tanga te. ndenge bosaleli biso ba toilette wana to sepeli makasi soki to yene école bana bakenda kazamba te.
Quand il pleuvait, les enfants n'étudiaient pas, explique cette enseignante. Vous avez également construit des toilettes. Nous vous en remercions parce que les enfants n'iront plus faire leurs besoins en brousse, conclut-elle. Pour sa part, Jean-Noël Kubandilanzala, directeur de cette école primaire Ngondi, affirme que cette construction remplit toutes les conditions.
Il y a 6 classes. Nous avons aussi un bureau administratif et dans ce bureau-là, nous avons aussi une salle de réunion à l'intérieur. Nous avons encore les logis même du chef d'établissement à l'intérieur. Vraiment, toutes les conditions sont réunies cette fois-ci par rapport aux années antérieures.
Isidore Mayamba Matondo, président du comité des parents de cette école, précise que l'acquisition de ces bâtiments fait la joie de toute la population du territoire de Kengé.
Avec cette construction, c'est Dieu qui a fait grâce vraiment qu'ils puissent penser à la population qui était rejetée. Vraiment, ils étudieront dans de très très bonnes conditions. Vraiment, ça va.
C'est depuis 1996 que cette école existe, a souligné Jean-Noël Kubandila Nzala.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Le pays est toujours dans l'incertitude sur un calendrier pour l'élection présidentielle, élection initialement prévue le 25 février et reportée in extremis par le président Macky Sall. Après l'annulation du report par le Conseil constitutionnel, le chef de l'État a annoncé des consultations pour l'organisation de l'élection dans les meilleurs délais, mais les acteurs politiques ne s'entendent pas sur le format et les termes de ces discussions. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.